Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition en vous apprenant, en vous réapprenant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, parfois probable, parfois moins, les petites images qui bougent d'abord sur des grands écrans, puis ensuite maintenant sur un peu tout ce que vous voulez, quelque regrettable que cela me paraisse parfois. D'ailleurs, ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer, si possible et avant tout musicalement, la carrière d'un des plus grands compositeurs de musique de film américain des années 30 aux années 50, Alfred Newman. Alors certainement pas un nom que vous avez l'habitude d'entendre, mais qui fut une sorte d'épée. Pilier du cinéma américain dès les débuts du cinéma parlant dans les années 30 jusqu'en années 70, puisque l'une de ses dernières compositions le fut pour un des films catastrophes, genre qui dans les années 70 faisait fortune, ça s'appelait Airport, et ce fut l'une des dernières compositions d'une carrière bien longue et d'une carrière bien brillante, puisque entre autres, Alfred Newman remporta à 9 reprises l'Oscar de la meilleure musique de film, et il ne fut surpassé dans ce record que bien plus tard par le dénommé John Williams, lui par contre bien connu, qui en remporta, à vrai dire, je ne sais plus trop combien, mais plus. Alfred Newman, eh bien, il était né le 17 mars 1901, le plus âgé d'une famille de 10 enfants, autant dire une famille peu riche, et qui donc le conduisit dès ses débuts, eh bien, à jouer dans les restaurants, dans les circuits divers de musicals et de vaudeville, puisque il était gifted, comme l'on dit, il avait des dons musicaux extrêmement importants qui très rapidement et très naturellement le conduisirent à faire carrière dans ce domaine. Et là encore, très naturellement, c'est à l'âge de 20 ans seulement qu'il rejoignit Broadway, où pendant 10 ans, donc à New York, il fut chef d'orchestre dans les musicals, en français on appelle ça les comédies musicales, composées par des compositeurs aussi prestigieux que George Gershwin, Richard Rodgers, Jerome Kern, etc., etc. Et parmi ces compositeurs prestigieux, eh bien, il y avait aussi Irving Berlin, avec lequel en 1930, il partit à Hollywood, où il commença d'abord sa carrière, là encore comme chef d'orchestre, avant de commencer à composer lui-même des musiques de films dès 1931 pour un film de la Metro-Goldwyn-Mayer. Alors on va évidemment sauter quelques épisodes pour en venir à la musique, une petite sélection parmi les nombreuses compositions d'Alfred Newman, et on va écouter un premier extrait d'une bande sonore originale d'un film tourné par William Wyler en 1939, qui était une adaptation d'un roman bien connu, je le pense, d'Emily Brontë. Ça s'appelait Wuthering Heights in English, Les Hauts de Hurlevent, bien sûr, en français, l'histoire tourmentée d'Heathcliff et de ses amours avec Cathy Earnshaw, quelque part dans la lande galloise, si je me souviens bien, en tout cas anglaise, un film qui réunissait dans les rôles principaux Merle Oberon, Laurence Olivier et David Niven, ce qu'on appelait dans les années 40 un film de prestige qui fut couronné de nombreux Oscars. Et c'est pour ce film donc que Alfred Newman composa la musique. Un extrait donc, un premier, William Wyler, Les Hauts de Hurlevent, Alfred Newman dans 24 notes secondes.
Thank you.
Un premier extrait du style musical si caractéristique d'Alfred Newman, un extrait de la bande originale des Hauts du Hurlevent, Wuthering Heights, un film de William Wyler tourné en 1939 d'après le célébrissime roman d'Emily Brontë, si célébrissime et bien qu'il fut adapté dès 1920, c'est-à-dire en plein cinéma muet. On reste perplexe sur l'idée d'adapter un livre aussi complexe au cinéma muet, mais ma foi, je n'ai pas vu le résultat. Et bien évidemment, après la version considérée comme de référence de William Wyler en 1939, eh bien, Les Hauts du Hurlevent intéressa beaucoup d'autres cinéastes, et notamment, en n'en citant qu'une version, celle réalisée par Louis Buñuel lui-même en 1953, si je me souviens bien, mais il y en a eu bien d'autres encore pour compter les amours tourmentés de Cassie Earnshaw et de Heathcliff, joué donc dans ce film par Laurence Olivier, ce qui n'était peut-être pas le choix le plus perspicace, mais ma foi, cela faisait partie de ces grands films de série A, comme l'on disait à l'époque, dans lesquels Hollywood mettait tous ses moyens, toutes ses stars et ses meilleurs techniciens. Et à sa manière, eh bien, Alfred Newman était un des meilleurs techniciens en matière de musique de film. Alfred Newman qui, en 1940, eh bien donc, poursuivit sa brillante carrière en rejoignant la 20th Century Fox, dont il fut pendant 20 ans un des piliers musicaux. Alors ceux qui vont encore au cinéma, il y a encore des films produits par la 20th Century Fox, et la fanfare qu'on entend à l'occasion de la présentation de la firme au générique, et bien cette fanfare, elle est signée par Alfred Newman. Alfred Newman, et on va écouter un nouvel extrait musical qui, en 1943, eh bien, composa la musique d'un film bizarrement inspiré en 1943 de la vie de notre sainte Bernadette Soubirou, une jeune paysanne qui, à Lourdes, petit village au pied des Pyrénées, comme dit ma petite fiche, ma foi, si l'on veut, eh bien, vit apparaître la Vierge, tout simplement. Je me souviens du générique du film qui précisait fort judicieusement à ceux qui croient aucune explication n'est nécessaire, à ceux qui ne croient pas aucune explication n'est possible, ma foi. C'est sans doute un peu de cela qu'il s'agit, et en plus de près de 2h30, quand même 2h30 avec Bernadette Soubirous, eh bien Henry King, le réalisateur, nous contait pieusement l'histoire de Bernadette et de ses apparitions. Bernadette qui était jouée par une jeune actrice à l'époque, je veux dire, qui débutait, Jennifer Jones, entourée de quelques vieux routiers du cinéma américain qui, bien sûr, jouaient des personnages français, ce qui fait toujours un peu drôle vu d'ici. La musique, vous allez le voir, elle était à l'image de cette pieuse initiative. On en écoute un extrait. Un extrait, donc, Le Chant de Bernadette, The Song of Bernadette, un film d'Henry King tourné en 1943 sur Divergence FM. Song of Bernadette, le chant de Bernadette, une musique d'Alfred Newman pour un film d'Henry King tourné en 1943 et qui obtint cette année-là l'Oscar de la meilleure musique de film, un film donc qui racontait l'histoire de Bernadette Soubirous. Alors on était en 1943, donc il y avait très peu d'acteurs français dans ce générique, mais il y en avait quand même un. Le transfuge Marcel Daliot, bien connu pour avoir été dans les années 30, un grand interprète notamment de Jean Renoir, puisqu'on le voit dans un rôle mémorable de La Grande Illusion. Et puis il y avait aussi la Vierge Marie qui était jouée, non pas par une inconnue, mais par une actrice à l'époque relativement connue, Linda Darnell, que le public reconnut immédiatement. Nous allons rester dans cette veine pieuse en écoutant un nouvel extrait d'une bande originale d'un film signé Alfred Newman, ça s'appelait Les Clés du Royaume, un film tourné en 1944 d'après une nouvelle d'Agy Cronin et qui racontait eh bien, l'histoire de l'évangélisation de la Chine par un prêtre catholique incarné par l'immense, à tout point de vue, physiquement et aussi intellectuellement, et aussi en tant qu'acteur, Gregory Peck. Là encore, une histoire bien édifiante dans laquelle on retrouvait aussi Thomas Mitchell, connu peut-être pour être le père de Scarlett O'Hara dans Autant en ne porte le vent. On retrouvait aussi quelques autres acteurs un peu moins connus, peut-être Vincent Price, qu'on vit dans les années 50-60 dans les films d'horreur de la Hammer. Une histoire donc relativement édifiante, peut-être un peu vieillie, mais dans la musique de laquelle eh bien, Alfred Newman avait su incorporer tout à la fois des éléments chinois pour coller au cadre et des éléments irlandais, puisque c'était de cette terre bénie qu'était originaire le personnage interprété par Gregory Peck. Allez, un petit peu de musique, un extrait donc de la bande originale des Clés du Royaume, The Keys of the Kingdom, un film de John Stahl dans 24 notes secondes. Voilà, c'est le troisième morceau que vous entendez, donc je pense que vous avez reconnu la patte d'Alfred Newman, certainement la musique hollywoodienne à son pinacle avec une prépondérance, et c'est peu dire, des cordes pour de longs glissandis qui sont une sorte de marque de fabrique de ce que beaucoup considèrent comme l'âge d'or de la musique de film hollywoodienne. Cette période des années 40-50 avec des orchestres extrêmement importants, en grand sens mélodique quand même, des thèmes qu'on peut reconnaître, mais surtout une prédominance, voilà, d'une ambiance musicale tout à fait particulière dont Alfred Newman, avec ses presque 10 Oscars, comme je l'ai indiqué, fut certainement l'un des piliers, un pilier certes classique, pas toujours très original, mais un solide pilier qui accompagna toutes les révolutions d'Hollywood et notamment les révolutions techniques comme celle qui, en 1953, marqua la sortie de La Tunique, un film d'Henri Koster qui était une histoire, un péplum, pour le dire tout simplement, donc un film qui se passait sous l'Empire romain, mais la caractéristique principale de ce péplum, elle n'était pas tant dans son histoire, qui n'était guère originale, elle était plutôt dans le procédé technique, c'est-à-dire que La Tunique fut tout simplement le premier film exploité commercialement en cinémascope. Ce procédé optique, inventé d'ailleurs en 1925 par un Français, Henri Chrétien, ce procédé optique qui permettait, sans perte de qualité visuelle, eh bien, d'agrandir considérablement de 2,5 fois le champ de vision et par conséquent la taille de l'écran et par conséquent la taille de l'image. Un procédé qui, en 1953, était une occasion pour Hollywood de lutter contre la concurrence grandissante des petites lucarnes, en l'espèce des télévisions. Et un procédé qui fit ses preuves, puisque en quelques années, plusieurs milliers de salles furent équipé en cinémascope et que La Tunique, qui n'avait pas un caractère forcément très original en soi, eh bien La Tunique fut un très très grand succès commercial. Dans les rôles principaux du film, on retrouvait Richard Burton, rien moins que, et Gene Simmons, avec quelques autres pointures du cinéma américain de l'époque. Le tout se passait sous le règne de l'empereur Tibère, où on voyait un soldat incarné donc par Richard Burton se convertir à la religion chrétienne. Bref. Là encore, nous restions dans le Saint-Sulpicien. Ma foi, Alfred Newman avait choisi d'accompagner cette épopée de plus de 2 heures à sa manière. On va en écouter un large extrait. Un extrait donc de la bande originale de la The Robe in English, de La Tunique, pardonnez-moi, en français, dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà, à nouveau une marque saint-sulpicienne pour un extrait de la bande originale de The Robe, La Tunique, un film d'Henry Koster et les musiques d'Alfred Newman. Alfred Newman qui est donc après ce film en 1953, eh bien poursuivi une longue carrière que nous n'aurons pas le temps d'égrener plus avant. On va quand même s'écouter un dernier extrait avant de nous quitter, de laquelle donc on peut ressortir aussi un film d'inspiration chrétienne, la plus grande histoire jamais contée, tournée en 1965. Pour être complet, il faut ajouter que la famille Newman eh bien, fut une famille de musiciens, puisque l'un des frères d'Alfred Newman, Lionel Newman, fut aussi un compositeur moins réputé. Et surtout que Alfred Newman eut deux fils qui sont toujours encore très actifs en matière de musique de film, David Newman et Thomas Newman, qui sont deux fils et qui ont collaboré à nombre de films fort importants encore aujourd'hui. Ajoutons-y aussi, pour être complet, Randy Newman, son neveu. Je suppose que c'est le fils de Lionel, lui aussi très connu à la fois comme compositeur de chansons, mais aussi comme compositeur de musique de film. On va évidemment se quitter en musique en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1959 cette fois. C'était tout simplement, si l'on peut dire, à l'adaptation au cinéma du journal d'Anne Frank. Il n'est sans doute pas besoin de présenter un film tourné par George Stevens en 1959 et qui racontait donc le quotidien d'Anne Frank qui se réfugie pendant la Seconde Guerre mondiale chez des Hollandais. Et pendant 3 ans, elle va raconter le quotidien d'une petite puis d'une jeune fille jusqu'au moment où l'annonce du débarquement allié fait sauter de joie elle et sa famille, qui sont donc clandestinement hébergés jusqu'à ce qu'Anne Frank, comme on le sait, soit finalement dénoncée puis déportée, et elle ne reviendra pas des camps. Une histoire donc illustrée avec beaucoup de simplicité et beaucoup d'humilité, il faut le dire, par George Stevens, l'interprète principal du film, qui interprétait donc le rôle d'Anne Frank. Millie Perkins, à ma connaissance, ne fit pas carrière ensuite, ma foi. C'était sans doute son destin. Le film reste plus qu'honorable et la musique ne l'est pas moins. C'est avec elle qu'on va se quitter. Un extrait de cette bande originale, Alfred Newman, The Diary of Anne Frank, le journal d'Anne Frank, dans Divergence FM. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. On revoit à bientôt. See you and bye bye.